La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième moment de notre série consacrée à l'anglais Laurence Stern. Une émission qui vous est proposée par Laurence Genepin, Laurence Millet, Chloé Casmarac, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Yanis Djoulad. Il est mort à 54 ans à Londres le 18 mars 1768 en pleine rédaction de ce voyage sentimental qui constituait comme un prolongement au livre qu'il avait rendu célèbre une dizaine d'années plus tôt, Les vies et opinions de Tristram Shandy, Gentleman. 9 ans de célébrité et de lumière avaient donc succédé à 40 années d'une vie de pasteur et de fermier modeste dont la vie familiale l'ennuyait un petit peu. Cécile Gilbert nous l'a raconté hier dans une émission à retrouver en podcast. Demain, nous parlerons de la correspondance de Laurence Stern, mais aussi de ses sermons et de la manière dont Diderot s'est inspiré de Tristram Shandy pour écrire Jacques le Fataliste. Ce sera avec l'universitaire Madeleine Descargues. Nous serons également en compagnie de Françoise Davoine en seconde partie pour une lecture psychanalytique de Tristram Shandy. Enfin jeudi, une émission hors série. Nous reviendrons sur Joyce Carol Oates. Rien à voir, ce sera avec Nancy Houston et Ingrid Astier. Il y sera question de boxe, mais aussi des dangers de la beauté féminine. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer cet art du roman dont Kundera disait qu'il avait atteint des sommets de légèreté jamais retrouvés, ni avant ni après lui, avec Tristram Shandy, eh bien je reçois celui qui a retraduit tous les livres de Laurence Stern pour les éditions Tristram, ça ne s'invente pas. Il s'agit de l'ancien professeur de philosophie, Guy Jouvet. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
J'ai une furieuse envie de commencer ce chapitre par une pure billevesée, et je ne vais point m'en priver. La voici donc, telle qu'elle m'est venue. Supposons que l'idée de Momus ait triomphé, et que la poitrine de chaque homme soit aujourd'hui munie de cette petite fenêtre vitrée que notre grand maître de tous les critiques y voulait placer pour corriger notre défaut de fabrication et mieux sonder nos cœurs et nos reins. L'adoption de ce dispositif aurait, n'en doutons point, deux effets considérables. Le premier, aussi cocasse que paradoxal, serait le traitement de faveur que se verraient réserver les plus sages et les plus graves d'entre nous tous, savoir qu'ils devraient payer chaque jour de leur vie, et ceci dans toutes les monnaies possibles, du moment qu'elles écourent, l'impôt qui, dans notre pays, frappe ordinairement les possesseurs de fenêtres vitrées.
Et l'humour de Laurence Stern dans cet extrait de Tristram Shandy, lu par Éric Herson-Macarel. Bonjour Guy Jouvet.
Oui, le passage est fameux, je l'avais commenté en 98, dans la première édition, donc des volumes 1 et 2. Et j'avais fait une comparaison entre ce passage, qui est évidemment brutal dans la manière de ridiculiser l'idée de connaître l'intérieur de l'esprit humain. Enfin, il va encore plus loin dans prenant d'autres exemples critiques, mais celui-ci est fameux parce que j'ai trouvé, et j'appelle ça des preuves posthumes du shandéisme, c'est que finalement beaucoup s'ingénient à lui donner raison en imitant les choses qu'il, sans le savoir, les choses les plus épouvantables qu'il a démolies. Voilà. Eh bien, vous avez par exemple un de mes grands thèmes de bataille lorsque j'enseignais, c'est la psychologie cognitive. Uh-huh. Ah oui, la psychologie cognitive où justement vous avez un et plusieurs auteurs qui semblent pasticher le texte qui vient d'être lu.
Vous pensez c'est-à-dire, à qui en particulier?
Il est ici, là. Attendez, voilà.
Oh, peut-être qu'on va pas le rechercher.
C'est pas essentiel, mais en tout cas, c'est exactement, on dirait, un pastiche comique.
C'est du William James, hein, avant l'heure.
Sauf que c'est sérieux. C'est-à-dire, la psychologie cognitive, c'est-à-dire, vous avez un homme qui dit, nous sommes capables aujourd'hui d'observer le fonctionnement psychologique des hommes comme derrière une vitre. Mm-hmm. Quand même fortiche, c'est la même chose. Oui.
Alors vous avez employé le mot de chandéen.
Ouais.
Vous êtes un chandéen, à n'en pas douter.
Ouais.
Mais qu'est-ce que c'est exactement?
Le chandéisme, c'est un esprit critique constant qui est bâti sur un principe qui est d'ailleurs une blague, c'est-à-dire feindre d'approuver les pires âneries, mm-hmm. hein, les pousser jusqu'au bout. Je dirais même que c'est la méthode du Ludion. Hein. Et les pires âneries, ça peut être aussi bien des préjugés courants extrêmement vulgaires, ou le sublime de Longin, par exemple, qui est très haut. Mm-hmm. Hein. Et que Stern ne peut pas supporter. L'idée de sublimité, sublime de l'amour, sublime du style, etc., etc. Et je ferai la comparaison avec le Ludion. C'est-à-dire, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, et à la fin, on plonge. On plonge, c'est-à-dire qu'on a l'ânerie suprême qui nous est présentée.
Donc ça, c'est l'art de la chute,
par
Laurent Stern.
Oui, c'est l'art de la chute. Le chandéisme, c'est ça, d'abord. Mais c'est aussi une position qui... Ah, c'est l'association de la sensibilité et de la raison, mm-hmm. sous une forme extrêmement originale et bien plus originale que chez Diderot. Parce que Diderot, lui, est tour à tour... l'homme de l'hypersensibilité qui lui fait préférer Richardson à Stern, évidemment, hein, est celui de la raison scientifique, mécaniste, extrêmement rigoureuse, etc. Voilà. L'art et la science sont archi-séparés chez lui. Chez Stern, on a une apparence d'hypersensibilité dans le premier temps, et dans Le Voyage sentimental, c'est très net, et alors des techniques de... reprise en main de cette manifestation de la sensibilité pour la retourner en son contraire ou bien l'exprimer par la raison critique. Là. C'est-à-dire que nous avons affaire à un mouvement. J'avais étudié ça d'ailleurs à l'université, en philo d'ailleurs. J'avais fait un diplôme de philo là-dessus. Premier et second mouvement chez Laurent Stern, mm-hmm. dans Le Voyage sentimental. Premier mouvement. De sensibilité et apparemment parfois de niaiserie apparente. Et puis deuxième mouvement, bombardement critique.
Alors ce qui est à noter aussi, c'est l'idée que, au fond, ces livres de Laurent Stern ont été écrits comme s'il s'agissait de conversations. On entend l'auteur parler avec son lecteur.
Eh oui, alors là-dessus... Il se trouve que je démontre que c'est ironiquement qu'il feint l'égalité entre l'auteur et
le... Donc il se moque un petit peu de son lecteur ?
Oui, il s'en moque et même il le prend en défaut en lui disant « Voilà, vas-y mon vieux, tu peux procéder à la moitié, hein, dans le 2-11 par exemple, voilà. Tu peux y aller, tu m'expliques comment le docteur Brand est tombé, etc., etc., comment il a été ridicule. Et puis, en réalité, eh bien, le lecteur, il est là pour rien du tout. Il est invoqué simplement pour la comédie. C'est lui qui fait évidemment le travail. Et à chaque fois, le lecteur est, je ne dirais pas violé, mais il est condamné à suivre le mouvement imposé par un auteur ultra rigoureux.
Alors ça, évidemment, vous le savez bien, Guy Jouvet, puisque vous avez passé quand même 15 années à traduire les trois livres de Laurence Stern. Et vous n'avez pas voulu complètement chasser l'ancien, mais vous avez voulu impulser du nouveau quand même par rapport aux traductions française de ces livres qui existaient.
Oui, ça c'est intéressant parce que, en général, je réponds, je ne fais pas de contre-traduction. Hein. Je plonge dans le texte, comme je l'ai fait d'entrée de jeu quand on m'a mis entre les mains le voyage sentimental avant Tristram Shandy, et je vais voir comment ça se passe. C'est-à-dire, pour moi, en fait, traduire, je traduis pour connaître et non pas pour traduire.
Oui. Alors, quelles ont été les grandes lignes de vos traductions? Qu'avez-vous voulu faire?
Probablement plusieurs choses, mais d'abord voir, j'exagère peut-être, la véritable érudition, y compris l'érudition critique, c'est-à-dire quels sont les thèmes, les auteurs, les sujets, la masse de thèmes, donc, qu'il entre les mains par une culture qui n'est pas du tout de quatrième main, contrairement à ce que disait Henri Fluchère. Henri Fluchère revient toujours sur les... C'est mon grand ami. Hein.
Oui, c'est un critique qui, visiblement, n'aimait pas beaucoup...
Mais je ne l'aime pas parce que...
Laurent Stern.
Mais en réalité, il appartient à cette catégorie de critiques qui déteste l'auteur sur lequel il passe 30 ans, ce qui est exactement le cas contraire du mien.
Parce que ça fait que 15 ans, peut-être, que vous êtes
sur Laurent Stern. Mais il le déteste. Il est toujours en train de... Le voyage sentimental, il l'aime pas tellement, sauf que il l'interprète par contresens, en disant le voyage sentimental, il est lié à la sensibilité de l'époque. Il la reflète pas du tout. Il la contredit complètement. Et dans le voyage sentimental, pour prendre un peu d'avance, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, cet homme fuir les Français, lorsqu'il est... Il est invité partout.
Ouais, il est... qui se passe en France, en grande partie, et en Italie.
Il s'en va. Il dit, je me prostituais, justement. Voilà. Alors que Fluchère écrit, sa sensibilité était si proche de celle des Français qu'elle était reconnue. Il ne dit pas cette anglicité. Il dit c'est une espèce de francité bis. Alors il est bien vu, mais Stern n'est pas du tout d'accord avec ça. Il critique à fond.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Laurent Stern avec vous, Guy Jouvet. On va prendre un peu les choses dans l'ordre.
Oui.
Guy Jouvet, on va commencer par parler du premier livre de Laurent Stern, qui est ce livre qui s'appelle Un roman politique. Qu'il y a, alors vous l'avez traduit en 2014, est-ce qu'il y a de la politique dans ce roman politique?
Oui, bien sûr, énormément même.
On peut raconter déjà un petit peu de quoi il s'agit.
Oui, il s'agit d'une méthode apparemment banale qui consiste à prendre, un peu à la manière de Boileau, des phénomènes locaux et ridicules, des disputes cléricales, oui, du comté d'York, et de s'en servir sous une forme qui est en quelque sorte fantastique.
Alors on va raconter déjà que ça commence autour de l'histoire d'un manteau,
ouais, c'est
qui
le manteau
reste dans une sacristie depuis des années. Il a été légué par un mécène.
Ouais.
Le mécène considère que seul le sacristain doit pouvoir porter ce manteau jusqu'au jour où l'un des sacristains décide de se l'approprier et de faire avec le tissu du manteau une culotte.
Oui, il est de le découper et d'en faire un jupon pour sa femme et une pelisse pour lui, enfin une espèce de vêtement ridicule. Et alors il le détruit évidemment. Et alors la question est posée tout au long et transposée dans le domaine de la guerre des Flandres pour finir. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut découper les territoires? Et ça, c'est parfaitement moderne en même temps.
Parce que c'est évidemment une métaphore politique en Europe.
On part du plus petit élément grotesque, ridicule, c'est-à-dire des ecclésiastiques préoccupés de leur carrière. Et alors, Premièrement, on l'est. C'est le procédé de la satire au genre du XVIIe siècle. Hein. On les réduit à des fonctions subalternes. Voilà. C'est-à-dire qu'un archevêque, il devient un chef de... Un chef de chantre, etc., etc. Et puis le sacristain, c'est le doyen de pas le sacristain, le bedeau. Attention, le bedeau, c'est au départ inspiré du doyen de la cathédrale. C'est le doyen de la cathédrale. Mmh. Et puis, le sacristain, l'imbécile heureux ou malheureux, dans l'affaire, c'est un certain Topham. Et ce Topham, on le trouve caricaturé dès le début de La vie et les opinions de Tristram Shandy. C'est-à-dire, c'est lui qui est pseudonymé Didius.
Donc vous voulez dire qu'il y a un continuum tous les livres de Laurent Sterne.
Oui, ma position, pour anticiper un peu, c'est que de tous côtés, de part en part, de A à Z, de haut en bas, Sterne se traduit lui-même. Je ne fais aucune séparation. Il y a les nuances, il y a les différences, évidemment, ça. Le Tristram Shandy et le roman politique, c'est pas la même chose, hein. Et c'est différent du voyage sentimental. Il n'empêche que tout au long, il va se traduisant d'un livre à l'autre. Vous voyez, par exemple, quand même, dans le voyage sentimental, vous trouvez l'homme en visite à Paris. Elle constate que l'espace est extrêmement étroit et constate la même chose que Rousseau dans le livre 1 de l'Émile. C'est-à-dire qu'on est mal logé à Paris et qu'il y a finalement, tout est étriqué là-dedans. Et même chez certains bourgeois pas trop riches, le logement est infect. Hein. Bon, il constate qu'il y a beaucoup de nains dans Paris.
De nains?
De nains, oui. Mm-hmm. Et alors, constatant justement, observant un nain qui l'aide à traverser le ruisseau, il croit que c'est un enfant d'ailleurs. Et il lui lève le visage et il constate que c'est un nain, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il dit, pour revenir à votre question ? Il expose dans ce chapitre la continuité et même le rapport de cause à effet entre le personnage du père Shandy dans Tristram Shandy, qui a une thèse sur les petites tailles. Mmh. Et il dit, moi je vais expliquer ce que je pense des nains en recopiant ce que m'a soufflé, qui donc, un personnage de papier.
Bon, donc tout est cyclique, oui, c'est ça finalement que vous êtes en train de nous expliquer.
Et plus encore, non seulement c'est cyclique d'un livre à l'autre, mais c'est la littérature qui commande au réel, hein. Et c'est le personnage de papier qui est plus réel que le personnage de l'entourage.
Et pourtant, quelquefois, la réalité rattrape ce pauvre Laurent Sterne, en l'occurrence, oui. Avec le roman politique, puisque c'est un roman qui, on a commencé déjà à le dire hier, qui a été
brûlé.
Qu'est-ce qu'on reprochait exactement à ce livre-là? C'est sa raillerie, finalement, permanente.
Ils n'ont pas aimé se reconnaître, tout simplement.
Donc les ecclésiastiques, essentiellement.
Oui, les ecclésiastiques étaient furieux de se voir rapetisser déjà ou appetisser, et ensuite d'être pris comme symbole des guerres européennes.
Je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a effectivement cet aspect politique, mais il y a aussi une drôlerie incroyable. Qu'est-ce qui, pour vous, est vraiment drôle dans ce texte-là, Guy Jouvet?
Pour moi c'est le dernier passage, c'est celui, le dernier, il est en trois parties, hein, mm-hmm. Et c'est la troisième partie, celle qui justement...
Donc c'est celle qui donne les clés,
les clés.
Ce qui s'appelle d'ailleurs les clés.
La clé, oui. Et alors, on trouve le thème habituel, enfin un thème fréquent chez Stern, c'est celui manuscrit trouvé, faussement trouvé. On en trouve un dans le... On a l'exemple dans le voyage sentimental aussi, avec le texte d'un notaire, qui, et ce texte, l'histoire d'un notaire, qui est enveloppé dans un, qui enveloppe, pardon, une botte de beurre.
Oui.
Voilà. On a le livre de Stévin, le mathématicien Stévin, qui appartient à l'oncle Toby et qu'on perd et qu'on retrouve, ou donc, eh bien, dans un, comme signé, dans un livre, justement.
L'humour de Laurent Stern, toujours présent.
Le serment, j'oublie le serment.
Passe, mais oui, le serment, mais ça, on aura pas le temps
est à
d'en parler, d'autant qu'on en parlera, je pense, demain, plus en détail. Passons peut-être à Tristram.
J'ai entrepris, voyez-vous, le récit non seulement de ma vie, mais de mes opinions, avec l'espoir que la connaissance de l'une et par suite de mon personnage et du genre de mortel auquel vous avez affaire aiguiserait votre appétit pour les autres. Chemin faisant, les liens de la politesse déjà établis entre nous se mûront en familiarité, et celle-ci, hormis quelques défaillances de l'un ou de l'autre, en amitié. « Ô diem preclarum, rien alors de ce qui me concerne ne sera jugé insignifiant en soi ou ennuyeux sous ma plume. Ainsi, mon cher compagnon, si vous me trouvez un peu chiche dans le récit de mon apparition, patientez avec moi et souffrez que je poursuive mon histoire à ma façon. Et si j'ai quelquefois l'air de muser en chemin, si je coiffe même un moment ou deux le bonnet des fous ou un grelot teinte, ne vous enfuyez pas. » Plutôt, courtoisement, faites plus de crédit à ma sagesse qu'à mon extérieur, et tandis que nous cheminons qu'à un cas, riez avec moi ou de moi. Bref, faites tout ce que vous voudrez, sauf de vous mettre en colère.
La compagnie des auteurs sur France Culture avec cet extrait de Tristram Shandy que vous avez reconnu évidemment Guy Jouvet. C'est un manifeste qu'on vient d'entendre ici dans la voix de Pascal Mazzotti, une revendication de la liberté de l'écrivain. D'ailleurs, c'est presque tout le temps tout au long de ses écrits, il revendique cela.
Voilà, c'est pourquoi j'avais relevé le problème de... du rapport au lecteur. Il ne doit rien au lecteur. Mmh. Voilà, je le dis carrément, j'ai étudié ça à fond. Et là, la liberté, eh bien, j'avais donné en annexe du roman politique, traduction, quelques lettres, en particulier celle de l'appendice au roman politique, à l'éditeur César Ward. Et il le prend par les oreilles, hein, et il lui dit, attention, ne changez pas un point, ne changez pas une virgule, attention, respectez mon texte. Il engueule l'éditeur.
Oui, hein. Mais comme tout bon auteur, enfin.
Ah non, pas à l'époque, hein. À l'époque, c'est pas. Mais non, mais lui, c'est, on dirait que le livre est impossible si on change le plus infime détail.
Oui. C'est un livre qui est un livre, évidemment, extrêmement fondateur de toute la littérature, non seulement anglaise, mais sans doute occidentale. C'est le livre des livres.
Oui, il le dit lui-même. Oui. C'est son expression qui est évidemment, une blague et très évidente à l'égard de la Bible. Livre des livres. Oui. Oui.
Livre mais pour des vous, livres. C'est comme la Bible, en fait, ce livre.
C'est la Bible. Ouais. Le livre des livres, c'est la Bible, normalement. Hein. Donc là, quand il dit, voilà, moi j'écris le livre des livres, attention, ça veut dire, ça ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il est supérieur. Il ne fait pas le malin, il ne dit pas, moi je suis le génie de tous les siècles. Il veut dire simplement que c'est une nécessité organique de l'écriture. Voilà. C'est-à-dire, c'est également le thème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire celui de la réflexion. La réflexion sur le texte. Mm-hmm. Tout texte de Stern est toujours réfléchi. comme chez Descartes, réflexivité et réflexion.
Alors qu'on a l'impression que c'est écrit à la diable en cavalcade.
Ben voilà, voilà la grande affaire.
Le Mais préjugé... comment êtes-vous sûr que ce soit réfléchi à ce point? Est-ce qu'on a retrouvé des documents? Est-ce que l'étude génétique du texte nous permet de l'affirmer?
À tous les coups, lorsqu'il parle de, lorsqu'il exprime le prime saut, l'aspect prime sautier.
Il n'est pas prime sautier, c'est ça?
Le premier mouvement. Bon. À chaque fois, il le critique, il le situe dans un mouvement organisé. Et c'est là qu'il faudrait développer, que je l'ai fait d'ailleurs à plusieurs reprises, la notion de composition littéraire chez Stern. C'est-à-dire que pour lui, il compare son texte à une machine. Ce qui fait qu'il est proche de qui? Certainement pas de Richardson, mais de la maîtrise.
Mais ça, c'est assez incroyable, parce que avoir un texte qui fonctionne comme une machine, et c'est vrai qu'en effet, ça se lit. On est évidemment pris dans un emportement de lecture qui ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Et en même temps, comment a-t-il fait, selon vous, pour qu'on ait sans cesse l'impression que c'est en effet une conversation, que c'est en effet une improvisation constante et qu'il ne fait que suivre, finalement, le fil de ses idées?
D'accord, c'est fondamental, lui. C'est une surface. L'aspect conversationnel, d'amabilité mondaine, etc., on le voit bien très politiquement. Comment il est contesté lorsqu'il dit « je m'en vais de France, j'en ai assez d'avoir été reçu par tout le monde avec les acclamations, etc. » En réalité, il s'agit pour lui de construire, reconstruire toujours. Et alors, je donne toujours le double ou quadruple mouvement de la construction littéraire chez lui, c'est-à-dire, d'une part, celui qu'il définit par le mouvement de la machine, expressément, c'est-à-dire progression, digression. Seulement, j'interprète toujours la digression autrement que comme une évagation ou une divagation, je l'interprète comme une intercalation. Et oui, c'est ça la grande affaire.
Une intercalation dans quoi?
Il intercale tout le temps. Quand il développe un thème... Il en intercale un autre, et il intercale dans l'intercalation.
On va revenir sur la question de la digression, parce que on voudrait vous faire écouter justement un extrait de Tristram Shandy sur ce point-là. Je voudrais aussi que vous nous racontiez, que vous nous expliquiez l'extraordinaire nouveauté, l'extraordinaire modernité de Tristram Shandy par le graphisme, parce qu'il y a à l'intérieur de Tristram Shandy des graphismes, notamment, alors, par exemple, voilà qu'il écrit un paragraphe qui dit « Me voici maintenant déjà passablement avancé dans mon ouvrage et avec l'aide d'un régime végétalien, modernité incroyable,
c'est ça, la fin du volume 4,
assorti de quelques graines réfrigérantes, je ne doute point de ma capacité à poursuivre et l'histoire de mon oncle Toby et la mienne en suivant une ligne à peu près droite, hors virgule. » Et là, on a en dessous de ce paragraphe...
Il fait des dessins.
Voilà, exactement. Des dessins qui sont des schémas, finalement, de son récit et des différentes digressions de son récit.
Oui, et alors, on voit très bien, d'ailleurs, comment il met des petites courbes annexes, mais toujours à l'égard d'un dessin, EIN et IN, d'un dessin régulier. Mmh. Ah, mais c'est ça qui compte. Alors, je voulais ajouter là qu'il y a deux autres termes dans la composition littéraire chez lui. C'est pas seulement progression-digression, c'est procrastination, énantiodromie. C'est-à-dire...
Vous allez nous expliquer ce que c'est que
l'énantiodromie. Le mouvement d'avance, quand il dit par exemple, qui est en avance là? Mes personnages, quand il écrit sa préface, il l'écrit après, dans le texte, au 3-20 de Tristram Shandy, et là aussi, dans le Voyage sentimental, il écrit la préface dans la désobligeance.
Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est de l'humour? Qu'est-ce que c'est?
Ah non, ça c'est la volonté de montrer que la réflexion, le temps d'arrêt de réflexion est absolument nécessaire pour dominer le mouvement même du texte qui est pensé et qu'il s'agit d'écrire. C'est-à-dire que là, Nous avons, alors l'énoncé de Remy, tout le temps, il dit les personnages, mes personnages ont pris de l'avance. Alors, faut que j'attende qu'il se calme et j'écris ma préface, quand il écrit la préface du volume 3. Dans le volume 3, la préface de tout le livre.
Je vous propose de faire une petite digression à présent avec En compagnie des revues.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Car chaque jour dans cette émission, vous le savez, nous allons voir du côté des revues ce qu'il se passe. Aujourd'hui, nous allons voir du côté d'une revue électronique et même d'un réseau social en ligne, babelio.com. Et c'est avec vous, Pierre Krause. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Donc vous allez nous parler des livres les plus populaires. C'est vrai qu'on arrive à 2018, hein, tranquillement. Donc des livres les plus populaires de l'année 2017 sur Babelio.
Tout à fait. Oui, décembre, c'est un mois de festivité, mais c'est aussi un mois de bilan, de classement en tout genre. Et moi, je vous propose de découvrir les livres publiés en 2017 qui ont été les plus populaires parmi les membres de Babelio. Donc, c'est-à-dire les livres qui ont le plus de lecteurs sur le site. Alors, il y a 17 livres au total dans notre classement. Donc, 17 auteurs, soit 9 femmes et 8 hommes. La parité est presque totale, presque parfaite. On remarque que ce sont exclusivement des auteurs français. Il n'y a que 3 auteurs étrangers dans notre classement.
Et on imagine que ce sont plutôt des auteurs connus dans les premières places.
Eh bien, écoutez, il y a de nombreuses surprises dans notre classement. On pourrait s'attendre au sempiternel duel, par exemple, entre Guillaume Musso et Marc Lévy. Mais il semble que cette année, il n'y a pas vraiment eu de match, puisque Marc Lévy est absent du classement, alors que Musso reste, quant à lui, dans le trio de tête. Amine Nothomb est présente, j'allais dire naturellement, mais ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Elle n'a pas été présente dans notre classement de l'année dernière. Elle est cette année à la 6e place pour son roman « Frappe-toi le cœur », un roman plus sombre que d'habitude, mais cela n'a pas fait peur à ses lecteurs. On retrouve certes d'autres têtes connues comme Philippe Besson avec son roman « Arrête avec tes mensonges », un roman autobiographique qui a été très apprécié par les lecteurs de Babelio, puisque c'est le livre de l'auteur qui a la meilleure moyenne sur Babelio, 4,25 sur 5 sur 401 notes. Il est à la 8e place de notre classement.
Donc ça, c'est pour les écrivains qu'on attendait. Il y a aussi des surprises dans ce classement.
Il y a de nombreux auteurs peu connus qui sont présents, des auteurs de thrillers psychologiques plutôt étrangers comme Shari Lapena qui a écrit Le couple d'à côté ou encore Delaney, auteur de La fille d'avant. Les thrillers psychologiques, hein, c'est la grande tendance auprès des lecteurs depuis quelques années, depuis peut-être le succès de La fille du train de Paula Hawkins, qui était d'ailleurs le livre La fille du train était en tête de notre classement en 2015. Elle fait une nouvelle entrée cette année, un peu plus modeste, à la 11e place, avec son nouveau roman Au fond de l'eau. Donc le succès du thriller psychologique n'est pas prêt de s'essouffler.
Bon, alors ne nous faites pas patienter plus longtemps, c'est terrible. Qui est le premier de votre classement?
Eh bien écoutez, pour la 3e année consécutive, c'est un premier roman qui trône à la première place de notre classement.
C'est 3 années de suite, un premier roman?
Premier roman, tout à fait. Alors, liste, hein, il y a eu La fille du train, donc, qu'on évoquait, de Paula Hawkins en 2015, En attendant Beau Jungles, d'Olivier Bourdeau en 2016, qui est un énorme carton, l'énorme carton que l'on sait. Et cette année, c'est La tresse de Laetitia Colombani, publié chez Grasset, qui est donc l'ouvrage le plus populaire auprès des lecteurs de Babelio en 2017. Le livre raconte les destins entremêlés de 3 femmes, Smita, une mère d'élite, c'est-à-dire une intouchable, Julia, une jeune sicilienne, et Sarah, une avocate ambitieuse. Je suis moi-même une femme, une épouse, une mère, nous avait confié l'auteur dans un entretien que vous pouvez découvrir sur le site. En tant qu'écrivain, j'avais envie de parler de ce qu'est être une femme dans le monde d'aujourd'hui.
Ben voilà qui devrait encourager tout le monde à écrire des premiers romans. Est-ce que les prix sont présents aussi, comme on peut l'imaginer dans votre classement?
Oui, les principaux lauréats sont évidemment présents en nombre. Dans le classement, on retrouve Véronique Olmy, qui a remporté le prix du roman Fnac pour Bakita. On la retrouve à la 13e place. Alice Zeniter et son Art de perdre, qui a remporté le concours des lycéens, qui se trouve dans notre classement à la 9e place. Petite déception peut-être pour l'ordre du jour d'Éric Vuillard qui a reçu le Goncourt et qui n'est qu'à la 14e place dans notre classement. Mais bon, il a été réalisé avant Noël, il y a quelques jours. On sait que traditionnellement, les Goncourt sont très souvent offerts à Noël. Alors je ne doute pas qu'il va remonter progressivement dans le classement à l'approche des fêtes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter, Mathieu, de très belles fêtes de fin d'année et à tous les auditeurs de France Culture.
Eh bien, bonne fête à vous, Pierre Krause. Et puis on se retrouve après les fêtes, justement, en janvier.
Thank you.
Et c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous sommes avec Guy Jouvet, dont la nouvelle traduction du Voyage sentimental vient de paraître aux éditions Tristram. Lui qui a déjà traduit le roman politique et Vie et opinion de Tristram Shandy, dont nous parlions en première partie de cette émission. Avec lui, nous évoquons l'art du roman de Laurent Stern, le roi de la jouissive digression.
En vérité, toutes mes digressions, sauf une, sont marquées par un trait de magistrale habileté digressive dont je crains que le lecteur ne se soit pas avisé. Non, certes, par manque de pénétration, mais parce qu'il est d'une qualité rarement recherchée et même inattendue dans une digression. Le voici. Bien que je joue le jeu des digressions aussi loyalement que n'importe quel auteur de Grande-Bretagne, et bien que j'y vole aussi loin de mon sujet et aussi fréquemment que quiconque, cependant, je m'arrange toujours dans l'ordonnance de mon histoire pour que mes personnages ne chôment pas en mon absence. Je me disposais, par exemple, à vous dépeindre à grands traits le personnage de mon oncle Toby lorsque ma tante Dina et son cocher se mirent à la traverse. Nous voici errants à plusieurs millions de miles, au cœur même du système planétaire. Et cependant, le portrait de mon oncle Toby a fait, vous l'avez noté, tout ce temps son petit bonhomme de chemin. Je n'en ai pas tracé les grands contours, c'était impossible. Mais de faibles indications et des traits familiers ont été jetés ça et là au fil de mes phrases, de sorte que vous connaissez maintenant mon oncle Toby beaucoup mieux qu'auparavant. Cet ingénieux dispositif donne à la machinerie de mon ouvrage une qualité unique. Deux mouvements inverses s'y combinent et s'y réconcilient quand on les croit prêts à se contrarier. Bref, mon ouvrage digresse, mais progresse aussi en même temps.
Ah voilà, c'est à peu près ce que vous expliquiez, Guy Jouvet.
Voilà, c'est ça la question. Et j'ajoutais justement la digression comme intercalation, parce que là, sur le plan de la composition, on a quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire le texte que vous dont vous évoquiez la nouveauté de dessin, de dessin Yen.
La nouveauté et puis l'unicité aussi, parce que oui. Je ne pense pas que ça a été beaucoup copié depuis.
Oh non, pas vraiment. Hein. C'est le tiré. J'ai avancé cette thèse que...
Il faut dire aux auditeurs qu'il y a des tirés absolument partout
dans
le texte. Alors, oui. Ils viennent d'où ces
sauf,
tirés
sauf le tiré. Sauf le tiré d'alinéa. Il n'en met pas. Oui. C'est ça qui est étonnant. Il supprime tous les tirés d'alinéa et même... Alors, pour les débuts de ligne, mais plus encore pour les conversations. Il enchaîne la conversation entre deux personnages en ne mettant pas de tiré, alors qu'il en met partout ailleurs.
Et pourtant, c'est très lisible.
Oui, mais c'est autre chose. C'est qu'à mon avis, il y a une explication intellectuelle de l'affaire. C'est-à-dire que il entend que les personnages s'écoutent, penser et parler, ou bien se marche sur les pieds, si j'ose dire, et se moque complètement de ce que l'autre dit. Et à ce moment-là, hop, on accole carrément les deux morceaux du dialogue.
Donc c'est une satire sur la manière dont on converse, finalement sans s'écouter.
C'est-à-dire que le père Shandy discute avec son frère, c'est-à-dire son frère est un imbécile, il faut le reconnaître. Hein. Bon, eh bien, un imbécile et un mauvais militaire, évidemment. Eh bien, à chaque fois qu'il est en train de raisonner, l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il est en train de penser à ses fortifications. Le sujet, il suffit d'un mot qui aurait pour lui, non pas double sens, mais un seul sens, c'est-à-dire qu'il entend autre chose. Et là, dans ces cas-là, j'ai remarqué qu'à chaque fois, Stern ne met pas le tiré entre les paroles de l'un, la pensée et les paroles de l'autre. Voilà, ça c'est très important.
Vous les avez gardés dans votre traduction, évidemment, hein, les tirés, mais
mais
tous
pas
les
là,
traducteurs...
dans ces cas-là, je les mets pas dans ce cas. Hein,
mais évidemment. Tous les traducteurs ne choisissent pas la même option.
Ah non, ils ont un tort énorme, parce qu'à chaque fois, l'intercalation, j'expliquais, j'avançais cette thèse, que le tiré est la plus courte des digressions. Voilà. C'est une digression, le tiré. Et c'est tellement une digression que, à plusieurs reprises, moins deux fois, très nettement, il le prend comme objet. Il le désigne comme une chose, comme je désigne, moi, ce livre. Il dit, quand Toby entre au 2-6, est en train de discuter des accouchements avec son frère, il se fait ridiculiser, et il dit peut-être que ma belle-sœur ne tient pas du tout à ce qu'un homme vienne l'approcher, etc., etc. Bon, seulement, moi je l'ai traduit de façon plus subtile que ça, c'est-à-dire que il y a une aposiopèse, c'est-à-dire qu'il y a eu un suspens qui en dit long, quoi. Alors évidemment, Sandy, mettez ce tiré, c'est une aposiopèse. Mettez ce tiré, c'était. Si vous mettez pas de tiré, vous sabotez votre traduction.
Alors je vous propose, Guy Jouvet, qu'on écoute une digression, puisque tel est notre sujet depuis quelques minutes, de Stern. Elle est interprétée par Lucien Rimbourg et Françoise Fechter.
Nous devrions, Mrs. Shandy. Nous devrions commencer à y songer. Cet enfant bientôt devra porter culotte.
En effet.
Nous sommes déjà honteusement en retard.
C'est vrai, Mr. Chandy.
Il a cependant très bonne mine dans ses robes.
Très bonne mine, assurément.
À tel point qu'on pêcherait presque en les lui ôtant.
Je le crois.
Et pourtant... Il a beaucoup grandi. Beaucoup.
Il est certes très grand pour son âge.
De qui diable tire-t-il ?
Oui, de qui ?
Je suis moi-même de petite taille.
Oui, de petite taille.
Il aura l'air idiot dans ses culottes neuves.
Il sera très gauche, assurément.
Et nous aurons de la chance si la chose s'arrête là.
Beaucoup de chance.
J'imagine qu'il ressemblera aux enfants d'autrui.
Exactement.
Je le suppose, mais j'en serai fâché.
Donc c'est le récit qui s'arrête à un moment donné, Guy Jouvet, pour parler tout simplement des problèmes de couple et à quel moment est-ce qu'on mettra des culottes à l'enfant.
Il est précisé que c'est, alors avec un calembour énorme, il s'agit des lits de justice. On reprend Louis XIV, on parodie Louis XIV, et ces lits de justice, une fois par an, réunit le Parlement qui s'incline très bas, et Louis XIV devient trôné, mais le Parlement n'a aucun pouvoir. Alors, les lits de justice, c'est le pouvoir absolu du mâle sur la femme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle est priée d'opiner.
Et là, on l'entend très clairement.
Et là, on entend parfaitement, c'est réellement l'écho. Ouais. C'est un écho pur et simple. Mais bien sûr, Monsieur Chandy, mais naturellement. Et alors, à la fin du chapitre... Il s'énerve parce que finalement, il en a assez de lui-même d'avoir tout dit et sans objection, sans discussion. Et il dit, mais enfin, Madame Chandy, etc., il l'engueule, quoi.
Il n'y a pas de manière de gagner, finalement.
Non. Mais le lit de justice, ça, c'est faramineux. C'est une jolie invention. Hein. Mmh. J'avais écrit d'ailleurs une note assez longue là-dessus, sur Louis XIV et sur le père Chandy, en disant, c'est comme si Louis XIV était dans le lit de Monsieur et Madame Chandy. Oui.
Ouais. Alors parlons du voyage sentimental, pour raconter aussi ce que c'est que ce dernier livre. Ça n'est pas un dernier livre qui a l'air d'être terminé. On a l'impression qu'il n'est pas fini. Est-ce que pour vous c'est le cas ? Est-ce que, au contraire, Laurent Stern avait été au bout de son projet ?
Il est fini d'une certaine manière. Le projet, de toute façon, j'ai répondu avant notre... conversation officielle, si je peux dire.
Il faut le redire pour nos auditeurs.
Oui, bien sûr. C'est que le voyage en Italie, pour lui, n'a aucune importance, sauf pour sa santé et la distraction. Mais sur le plan littéraire, il ne il n'a rien en tiré, voilà. Et d'ailleurs, il se contente de dire, voilà où je vais. Il explique qu'il est sur le chemin à la fin. Il est sur le chemin, mais nous lisons attentivement et nous voyons qu'il y est déjà allé. C'est ça qui est l'astuce. Le coup de la procrastination et de l'énantiodromie, c'est-à-dire du mouvement en arrière, il est là. C'est-à-dire, il nous avertit qu'il y est déjà allé alors qu'il est en train de dire qu'il y va.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans ce voyage sentimental, il y a des choses qui l'intéressent plus que d'autres et que l'Italie, ça l'a pas intéressé. La France, en revanche, ça l'a intéressé. On peut raconter un petit peu de quoi il s'agit. Bon, c'est encore et évidemment un récit très drôle où on suit un personnage qui s'appelle Yorick et qui part d'Angleterre, qui arrive à Calais.
Oui, c'est lui qui parle, c'est lui, mais finalement c'est pas. Monsieur Stern, finalement, est le produit même et l'invention même de Yorick, voilà. C'est-à-dire qu'on inverse la perspective de l'invention. C'est... J'avais développé à plusieurs reprises d'ailleurs dans les notes d'autres livres sur cette pseudonymie, c'est-à-dire que c'est comme il y a un autre exemple peut-être comparable en philosophie, c'est Kierkegaard, c'est-à-dire les pseudonymes intérieurs qui créent eux-mêmes l'auteur. Alors là, il est entendu tellement qu'il est Yorick, mais attention, il n'est pas Yorick le bouffon de Shakespeare. Et c'est là que lorsqu'il est reçu par le comte C-O-M-P-T-E, le comte de Bissy en réalité, le comte de B, et c'est faux d'ailleurs, en plus c'est une invention, c'est pas lui qui s'est occupé il s'est jamais occupé du passeport.
Mais enfin dans vous livre, faites allusion à un des nombreux événements qui se passe dans ce livre, parce que Yorick à un moment donné va à Paris, donc il cherche à avoir un passeport, mais on lui refuse son passeport, donc il va voir à Versailles le fameux comte.
Oui, mais c'est pas lui. En réalité, ce sont d'autres nobles qui, dans les salons, par l'intermédiaire, jouent le rôle d'intercesseur auprès de Choiseul.
Mais alors, c'est quoi finalement ce livre? Est-ce que
c'est ni un voyage ni sentimental. Au sens où ça résonne à nos oreilles, ni voyage ni sentimental. Pourquoi? Parce que le voyage est toujours en quelque sorte déduit d'autre chose, c'est-à-dire du mouvement même de la réflexion, du mouvement de la pensée, qui anticipe sur ce qu'il veut aller voir et va voir autre chose. Mmh. Et puis, attention, il y a tout de même la préface qui est écrite après coup, en cours de route, dans la désobligeante, il a pratiquement pas bougé de Calais.
Qu'est-ce que c'est que la désobligeante?
La désobligeante, eh bien, c'est une petite voiture, donc, qui a une caractéristique, c'est que, contrairement au vis-à-vis, qui est petit également, mais qui loge deux personnes pour le voyage, la désobligeante n'a personne en face. On n'a personne en face. Il y a un seul passager.
C'est là où c'est très désobligeant pour la personne. Mais forcément.
Et d'ailleurs, l'astuce, le comique énorme quand même dans l'affaire, c'est lorsqu'il fait du plat à cette dame qui est un peu désœuvrée, et qu'il monte tous les deux dans la désobligeante. À un moment donné, ils montent dans la désobligeante. Et alors, évidemment, ils n'ont pas de place. Je suppose qu'ils sont pas très gros, évidemment, mais il n'y a aucune place, mais ils montent quand même dedans. Et puis après, il écrit sa préface. Eh bien, attention. Avant, il écrit sa préface. Mais quand il écrit la préface, eh bien, les voyageurs curieux se demandent pourquoi la désobligeante bouge. Il dit, c'est quelqu'un qui écrit une préface. Et le curieux est un imbécile, évidemment. Et là, il faudrait développer ça, on n'a pas le temps, mais tout de même, la curiosité, c'est son ennemi. Pour lui, quand il cherche à élucider une énigme, eh bien, ce n'est pas la manifestation de la curiosité. Il est comme Descartes, il est comme Cervantes et bien d'autres. Parmi les plus grands et Montaigne, la curiosité est un défaut. Ce n'est pas un pouvoir de connaître. C'est le touriste. Le touriste est curieux.
La
Nuit des auteurs sur France Culture. Alors après les voyages de Laurent Stern, dont on a parlé hier avec Cécile Gilbert, il rentre en Angleterre, il regagne sa cure de Coxwold, c'est en 1767. Et là, il est à bout de souffle, Guy Jouvet. Il se met à écrire son journal à Elisa, et c'est le dernier texte dont on va parler aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Oui, alors là, le journal d'Elisa, il est beaucoup moins mystérieux. Il est burlesque, mais il est beaucoup moins mystérieux qu'on le dit. On va chercher du tragique là-dedans ou du ridicule, alors que l'esprit critique, qui a le sens du burlesque, il se moque de lui-même, évidemment. Ce journal est quelque chose d'ahurissant, il faut le reconnaître, mais non pas pour les raisons qu'y voit M. Fluchère, c'est principalement.
Ah, M. Fluchère, décidément.
Ah non, M. Fluchère, c'est épouvantable. Il estime que Cervantes est dépassé également. Moi, je l'ai lu en entier, mais beaucoup de ses défenseurs ne le lisent pas. Voilà pourquoi ils le défendent. Mais là, tout de même, cette histoire tout de même du la rencontre chez des amis qui sont les James, qui sont des gens de Soho, du quartier de Soho, et ces gens-là, bon, la dame est plus ou moins désœuvrée, cultivée et autres, mais le monsieur est un ancien personnage important des Indes. Alors évidemment, on n'a pas bien le temps de raconter ça, mais il y a toute l'économie de l'Angleterre avec les Indes, évidemment. Et alors, il est invité, il les connaît, oui, ce sont des amis. La dernière lettre, peut-être, qu'il adresse, une des dernières lettres, c'est à Madame James, d'ailleurs, en 67, trois semaines avant de mourir. Bon. Mais en tout cas, il y a donc un ancien officier prestigieux, c'est Monsieur James. Bon, et là, il rencontre Elisa Draper. Bon,
cette personne, le grand amour.
Oui, le grand amour. Mais alors, là encore, Fluchère, j'ai pas le temps de vous lire le texte, je l'avais relevé, mais Fluchère dit que c'est une crétine, qu'elle est, qu'elle est pas belle.
Laissons Fluchère.
Ouais, non, le pauvre. Non, mais en réalité, on ne sait rien.
Il est disparu.
On ne sait rien du tout là-dessus. Ouais. On sait simplement une chose. C'est qu'un triste individu nommé Draper, a épousé, violé une petite fille de 13 ans, et lui a fait deux enfants à 15 ans et 16 ans, quoi. Bon. Faut quand même voir ça. Hein. Alors, quand Stern la rencontre, elle a obtenu de ce voyou de mari de venir respirer un meilleur air, parce que les Indes, c'est pas très beau, hein. C'est pas très bon pour la santé, surtout chez une femme qui a fait deux enfants et qui a laissé sa santé un coup de plus, hein, une enfant. Alors, le voyage sentimental, il est étonnant parce que finalement, il y a rien de sexuel dedans. Bon. C'est pire, même encore, mais c'est parfaitement...
Il y a du grivois, quand même.
Mais il y a du...
Comme toujours chez Stern.
Le grivois, il ne touche pas la relation à Elisa. Elisa, il dit constamment, ce qu'il vise, c'est une fille. C'est d'adopter une fille. Alors, à la fois, il parle de veuvage, que sa femme soit veuve, hein, son épouse soit veuve, Madame Stern, et que crève Draper.
Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, alors qu'il n'y ait pas de présence du sexe, veuvage, et on terminera par là, car on arrive à la fin de cette émission.
Le veuvage, pour Stern, c'est un thème littéraire. À mon avis, il se marre encore là-dedans. Parce que c'est pas ce qu'il a envie de tuer Draper, ni qu'il a envie de tuer sa femme. C'est le problème que le veuvage, et la veuve Wadman Tampon, elle joue un rôle énorme dans Tristram Shandy. C'est la virilité même, c'est la femme qui attaque, hein, alors que Toby, c'est le pauvre type qui fuit. Il dans une grande lettre où il répond à un homme qui lui dit « Des morts, vous ne direz que du bien », hein, eh ben, il dit « Mais non, mais moi, ça, c'est une sentence qui n'a pas de sens, de signification, et les veuves, pour moi, c'est l'idéal pour moi. » Alors, premièrement, les veuves, mais deuxièmement, avoir une enfant. Il lui prépare sa chambre. Il prépare sa chambre comme à une adolescente, à une enfant.
Voilà pour les femmes chez Laurent Stern. Hey. Merci beaucoup Louis Jouvet pour ce panorama de l'œuvre de Stern. Je rappelle que vous avez traduit pour les éditions Tristram La vie et les opinions de Tristram Shandy, mais aussi le roman politique et enfin Un voyage sentimental suivi du journal à Elisa. On a essayé de parler un petit peu de tous ces textes. Je renvoie nos auditeurs évidemment aux différentes éditions. Demain, c'est le dernier arrêt dans notre voyage sentimental à nous, en compagnie de Laurence Stern. Ce sera avec Madeleine Descargues, puis Florence Davoine. En attendant, n'hésitez pas à aller découvrir chez votre libraire le dernier numéro de la revue papier, la revue de France Culture, dans une formule rénovée qui consacre son dossier au nouveau marché de la croyance. Tout de suite, la poésie, Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Ce sont des carnets, les derniers poèmes d'un auteur que certains tenaient pour un grand styliste. Hervé Prudhon, un des meilleurs de sa génération. J'étais tremblé, trempé de mon septembre. J'annonnais dans ma tête en scaphandre un dictionnaire de rimes à rien. Mourir était mon programme court. Écrire déjà était mort de fatigue et silence. C'était un premier pas vers ma longue absence. Le 3 septembre 17. Si je compte jusqu'à 3600, j'aurais perdu une heure à compter jusqu'à 3600. On a entendu Brottigan là derrière, qu'il aimait beaucoup. Je me tais pour entendre la conversation du vent sous la pluie, à laquelle je ne comprends pas plus que des mots d'amour interdits, murmurés, c'est illisible, sous la pluie. Je comprends mal la vie qui va, les secrets des oiseaux du ciel et le babil des nourrissons, la musique des chansons d'amour. Je regarde et je ne vois rien. Je vois juste que je suis sourd, comme un tambour crevé, vieux tambour seul à Waterloo, les yeux dans les oreilles et les oreilles noires de soleil, le monde ailleurs, le monde perdu, fidèle d'une religion morte. Un ancien petit poème, aucun âge, aucun lieu, nul milieu, pas de sage et pas de fou, pas de feu. Le temps s'étire, le temps se tire, la vie va, j'avalante. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente, disait Apollinaire. Je ne sors plus, trop fatigant, alors j'écris, feignant. Je voudrais vous y voir, mes efforts vont à l'essentiel. J'écris du fond de mon fauteuil, un œil au ciel et l'autre au seuil de mon cercueil. L'infime poésie. Il va être à court de noisettes, le petit écureuil. Je voudrais vous voir, mes mignons, à court de provisions, le corps mou, l'esprit flou. Vous seriez mes beaux frères, moins sévères. Mon âme, il parle de son âme, Hervé. Mon âme est grand vide aujourd'hui, mon âme. Calme plat, ma voile pâle, pan délavé. La nuit, seul, je meurs dans le grand cercueil de nuit. Le jour, je vois le ciel et la télévision. Parfois, j'écoute un disque mortel pour plus tard, l'humble cérémonie avant ma dispersion. Sans chanson, à voix plus basse, une aube hurle à la porte ouverte du désert dans la nuit. Alors, je meurs de chagrin, du cancer, j'ai mal. Pas mal de mourir, surtout. Main dans les poches, léger, mais le cœur lourd. La mort peut être moche. C'est d'un cancer du poumon qu'il est mort. Je vis en apnée. Parfois je respire, j'émerge libre, et je fais le plein, cool, mais je m'enfonce, et je force, je m'efforce, je m'essouffle. Dans l'espoir absurde de nager, je perds pied, cool, j'ai perdu l'air. Ce n'est pas vrai qu'il est partout. L'air n'est pas libre comme l'air. Prendre l'air m'est défendu, ce serait le voler, je n'en peux plus. L'indécence de l'eau me délivre au moment où le mal m'enivre.
Merci Jacques Bonafé, vous lisez toute cette semaine des poèmes d'Hervé Prudhon.